Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour chers auditeurs, je l'ai toujours dit et je le répéterai à l'infini, Antiquité rime avec modernité. Nous en allons avoir la preuve immédiate puisque mon invité du jour a à la fois le culte d'Achille, comme nous tous bien évidemment, mais aussi le culte de la technique au service du rêve, c'est-à-dire de voir comment l'imaginaire peut s'emparer de mythes qui ne sont par définition jamais morts, et comment on peut les intégrer de la manière la plus moderne possible à notre vision d'aujourd'hui. Mon invité, eh bien, il s'appelle Dominique Barbier. Depuis l'inauguration de l'exposition au Musée de la Romanité « Achille et la guerre de Troie », nous le connaissons. Je dois avouer qu'avant, je ne le connaissais pas. Et nous avons admiré son travail, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je le salue d'abord. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on apprendra à le connaître dans un petit instant et il nous expliquera son parcours. Il nous dira qui il est et comment il est venu à faire cette aventure merveilleuse autour de la geste d'Achille. Mais tout d'abord, une fois n'est pas coutume, je voudrais qu'on écoute une petite minute que j'ai captée sur le net où il s'exprime à propos de rêve d'épave. On en dira un petit mot dans un instant. Écoutez bien.
Que vont voir les gens ici?
Que vont voir les gens? Les gens vont voir un récit sur l'imaginaire des profondeurs, des figures mythologiques, des images scientifiques dans un décor étonnant, des objets qui sont au fond de la mer, des sculptures qui surgissent, des murs qui ont été transformés par les animaux marins, des créatures mystérieuses, toutes sortes de choses.
Qui vous a inspiré ?
Beaucoup l'espace, avec la possibilité d'expérimenter toutes sortes de dispositifs pour mettre en scène l'image. Voilà, c'est un peu, on aime beaucoup mettre en scène l'image et explorer et travailler sur le matériau même des murs, la grotte, ça nous a vraiment beaucoup inspiré. En fait.
C'est une expo immersive, donc c'est une exposition globale, ça veut dire que vraiment la lumière, l'image, le son, les murs, la circulation dans l'espace, tout est lié, tout fonctionne ensemble. Rien n'est un élément isolé qui pourrait fonctionner tout seul. On a une série d'espaces qui sont tous différents, mais qui résonnent et qui se répondent les uns avec les autres et qui composent un parcours global.
Alors, est-ce que vous pourriez nous resituer cette interview qui a le mérite aussi, je trouve qu'elle dit beaucoup de choses en peu de mots, mais qui a le mérite aussi d'introduire une autre voix qui est celle de Anne Vandenstein, j'espère que je prononce bien.
Pas tout à fait, Anne Vandenstein.
Voilà qui est rectifié.
Ou Steen peut-être, avec un bon accent flamand.
Bah, d'accord.
Donc c'est ma compagne et ma collaboratrice, donc on travaille effectivement tous les deux à tous les niveaux. On est tous les deux artistes et scénographes, avec des compétences complémentaires, disons. Et tous les projets, souvent c'est moi qui les porte au niveau de la parole, mais c'est vraiment des projets qu'on conçoit et qu'on réalise ensemble, en duo.
Et là, ça se passait dans une aventure autour de Arles-Rhône 3, c'est ça ?
Alors, oui et non. Rêve d'épave, c'était une expo dans les souterrains de la Hauture à Fos-sur-Mer. Et donc, qui évoquait plutôt les richesses archéologiques sous-marines de Fos-sur-Mer, qui était le port de Arles. Donc, bien sûr, les deux sont liés. Mais c'était une expo qui se voulait très rêveuse, porteuse de rêves, disons, et déjà un petit peu comme Achille, on pourrait dire, mais d'une façon très différente quand même, ça mélangeait des pièces de collection et du rêve immersif, disons. Mais il n'y avait pas énormément de pièces, pour tout dire. Il y avait surtout du rêve. Donc, toute une mise en scène dans des souterrains assez mystérieux, une sorte de labyrinthe. Et le principe, c'était un parcours avec beaucoup d'installations vidéo artistiques différentes. Ça allait du puits, il y avait une sculpture qui sentait, il y avait des projections sur des tissus, toutes sortes de choses, un parcours de rêve, disons.
Alors, c'est vrai que c'est tout à fait différent, forcément, chaque projet est unique de l'exposition « Achille et la guerre de Troie » au Musée de la Romanité. Mais néanmoins, comme vous l'avez dit, il y a des points communs et semble-t-il, on va en reparler, une certaine fascination pour les mythes et pour la Grèce antique ou l'Antiquité en général. Mais avant de rentrer dans ce sujet précisément, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours. Je crois savoir que vous êtes professeur aussi Et quand est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure de créer ce studio dont on va parler?
Alors moi, je suis artiste avant tout, disons. Et j'ai toujours fait de la création. Moi, j'étais étudiant aux arts décoratifs à Paris, où c'était à l'époque, dans les années 80, c'était la première école qui avait introduit la vidéo, la technique vidéo, comme une discipline artistique. Et donc, j'ai eu un peu la chance de découvrir ce médium à une époque où il n'y avait aucun prof, puisque c'était tout nouveau. Et donc, on était beaucoup dans l'invention, il y avait un côté pionnier très excitant. Donc, j'ai connu toute cette période très excitante de l'art vidéo. J'ai fondé un studio professionnel de vidéo, puis j'ai émigré à Marseille. Et c'est là que j'ai commencé à être effectivement professeur à l'École des Beaux-Arts, puisque le pari qu'on avait fait, c'est d'installer un studio professionnel, qui était celui qu'on avait à Paris, dans lequel on recevait les artistes du monde entier, parce qu'on était à Paris, et de transplanter ça à Marseille, et bien sûr d'y inviter les étudiants. Donc le principe, c'était la rencontre des étudiants et des artistes internationaux dans un studio de très bonne qualité. C'est comme ça que ça a démarré professionnellement, disons, à Marseille. Et moi, parallèlement, disons que j'ai fait beaucoup d'artistique. Et puis, en 2011, on a été appelé par un architecte pour faire une réalisation qui s'appelle toujours le Mémorial de la Marseillaise à Marseille, qui est une sorte de mémorial entièrement composé d'images et de sons. Et ça a été un très beau succès. Et depuis, on n'a plus arrêté de faire des expositions immersives. Et donc, on est devenu artiste et scénographe d'expositions immersives.
Alors donc un beau parcours parce que, alors je ne sais pas quand cette aventure-là a commencé précisément, vous diriez...
Scénographie et immersive, je dirais en 2011 pour le situer, pour les musées en tout cas. Avant on faisait ça dans des contextes artistiques sans penser à appeler ça une scénographie immersive, on appelait ça des installations vidéo monumentales. Mais voilà, depuis 2011 on s'est vraiment dirigé très volontairement vers l'espace public et la réalisation pour les musées.
C'est là que vous avez créé le studio à cette époque-là?
En fait le studio il a été créé, recréé et re-recréé, donc je dirais que c'est à cette époque-là on a orienté le studio et on l'a réadapté pour la scénographie immersive pour les
Alors,
musées.
Alors on va quand même en donner le nom hein, parce qu'il y a peut-être, oui. À l'issue de l'émission vous allez peut-être recevoir des propositions multiples et variées.
Alors le studio s'appelle Fearless, donc sans peur en anglais, et c'est un peu... C'est un cap qu'on essaye de tenir, de proposer aussi d'avoir une certaine audace, tout simplement. C'est l'audace de faire de l'artistique. Hein. C'est quelque chose d'aussi simple et ambitieux que ça.
Oui, comme vous dites, et on est à la croisée de tous les chemins, y compris la technique, parce que c'est la technique qui se met au service de ce rêve.
Bien sûr, on a un savoir-faire, un équipement technologique assez... très sérieux, disons, considérable. On a une expérience énorme, donc on est capable de l'utiliser, cette technologie, et de lui faire donner le meilleur qu'on puisse en tirer, nous, au service d'un projet qui est toujours artistique. C'est vraiment ce qui caractérise la société Fearless, disons. C'est qu'on travaille sur des projets scénographiques pour les musées, mais uniquement s'il y a une vraie demande d'artistique. L'artistique est au cœur du projet, c'est ça notre ce qui nous intéresse.
Et alors, vous en êtes à peu près à une quarantaine d'entreprises comme ça au service des musées.
Tout à fait, ouais, une quarantaine d'expositions permanentes ou temporaires en France et en Italie.
Ah oui, d'accord. Et donc, en ce qui concerne celle-ci, donc quand je vous avais écouté lors de la conférence inaugurale pour l'inauguration de cette magnifique exposition que j'incite toujours et encore à aller voir, vous nous disiez que vous aviez rencontré le conservateur du Musée de la Romanité à Marseille, je crois, justement.
Je l'ai rencontré à Arles.
À Arles.
Puisque Nicolas Delarquier travaillait au Musée Arles Antique. Et moi, depuis 2012, j'ai réalisé qu'on a réalisé une douzaine d'expositions. Alors, soit quelques grosses expositions et surtout des événements pour les nuits des musées. Des choses souvent très ambitieuses, mais avec des tout petits budgets et très expérimentales. C'était un vrai terrain d'expérimentation formidable. On a fait des projections au plafond, des mappings de la Vénus d'Arles ou d'autres sculptures. On a plongé le musée tout entier dans le noir pour le transformer en enfer de Virgile. On a fait toutes sortes d'expériences fabuleuses où tout le monde se demande mais comment on peut faire des trucs pareils pour une seule nuit, parce que ça aurait pu mériter de rester un mois. Voilà, donc ça a été un champ d'expérimentation fabuleux et aussi de rencontre avec tout cet univers archéologique, disons. Et c'est aussi à l'issue, c'était la dernière exposition que j'ai faite dans ce musée. C'était donc le moment où Nicolas était encore à Arles à ce moment-là, donc c'est comme ça qu'on s'est connus.
Et donc, il a eu l'idée de vous refaire venir pour ressusciter, s'il en avait besoin, Achille à Nîmes. Et justement, une de mes questions rebondit sur ce que vous venez de dire. On doit être assez malheureux quand c'est éphémère, quoi, quand tout ce travail... Bon, bien sûr, on passe à autre chose, on oublie, mais effectivement, on doit avoir envie de faire prolonger l'expérience.
Alors ça, c'est une question très, très intéressante, enfin, moi qui me touche très intimement, disons, mais moi j'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup d'installations, beaucoup d'expositions, donc elles sont toujours éphémères par définition. À la fois, ce qui est passionnant, c'est qu'elles sont toujours différentes. Mais un jour c'est fini, on ferme et on passe à la suite. Donc moi je suis un peu, je pense comme beaucoup d'artistes, dès qu'une exposition est non pas terminée, dès qu'elle est en route, on passe à la suivante. Et puis, alors celle d'Achille c'est un peu différent parce que j'ai vraiment envie d'aller l'observer, de voir. Enfin je fais beaucoup ça, hein, mais là plus particulièrement d'aller voir comment ça se vit, comment ça se passe, peut-être proposer des modifications en fonction des retours qu'on a.
Ça c'est possible.
C'est possible, je dois être un des seuls à vouloir faire ça, puisque là, c'est plus payé, plus rien du tout, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien l'idée qu'on la laisse vivre une exposition un peu un mois, disons, quelques semaines, et puis on observe un peu ce qui se passe, les retours, comment ça vit, et puis on s'aperçoit qu'il y a des petits détails qu'on pourrait peut-être changer, ou une séquence, je sais très bien, moi, qu'il y a une séquence... qu'en fait j'aimerais modifier parce que je sais que je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire. Enfin, non pas qu'on n'aille jamais au bout de quoi que ce soit, mais je sais bien qu'il y a une séquence qui pourrait être mieux, telle séquence pourrait être améliorée. Telle séquence, quand je l'ai vue vraiment en situation, devant la mosaïque, avec la lumière, etc., je me suis dit que j'aurais pu la faire autrement. Des choses comme ça. Donc si... En tout cas, c'est des propositions qu'on peut faire. Après, techniquement, il n'y a aucune difficulté à faire une modification et à l'intégrer très rapidement. Donc c'est plus...
Mais alors, je suis curieuse, ces modifications, elles se feraient la nuit ? Elles se feraient quand ? Parce que le public est toujours là.
Non, c'est des modifications que je vais imaginer, que je vais faire chez nous en studio. Et j'arriverai avec les films modifiés et on les remet dans les lecteurs de films et c'est une opération quasiment instantanée.
Bon, c'est magique.
Oui.
Alors, quand vous dites « on », forcément, on a compris que Anne et vous, c'est un sacré duo. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans ce studio ?
Alors, oui et non. On n'est que deux, c'est clair. Concepteur, réalisateur, directeur, tout ce qu'on veut de la société. Et ensuite, on a tout un réseau, je dirais, de collaborateurs réguliers ou moins réguliers qu'on appelle en fonction des projets, des besoins, des urgences. Mais ils font pas partie, c'est pas le personnel du studio, c'est des collaborateurs extérieurs qu'on appelle à la rescousse pour... toutes sortes de raisons, soit ils ont des compétences qu'on n'a pas, soit on a besoin de renforts, soit il y a des urgences, etc., etc.
Alors, je suis complètement dans la science-fiction. Si quelqu'un écoute l'émission et se dit « j'ai envie de travailler avec lui », il vous envoie un mail et puis il vous propose.
Bah oui, aussi simple que ça.
Voilà, très bien. Et bien, on va marquer une petite pause musicale. Je suis allée chercher une musique très légère d'adaptation pour un dessin animé sur la geste d'Achille, évidemment, vous en doutez. On se retrouve tout à l'heure.
Ok.
Oh,
Alors, Antiquissimo sur Radio Alliance Plus et notre invité passionnant, Dominique Barbier, est celui qui a conçu avec Anne Van den Steen, je ne sais pas si maintenant c'est mieux que tout à l'heure, qui a conçu, je ne sais pas, si je peux dire une exposition immersive, on va essayer de définir le terme qui est à la fois beau et mystérieux. Et moi, je dirais un spectacle, c'est vrai, une immersion, le mot s'impose, totale, dans cette exposition où on nous permet, grâce à la magie du son, de la vidéo, de ce travail sur les murs, effectivement, de rêver d'Achille, de la guerre de Troie, de toutes les étapes qui ont fait que Achille est devenu ce héros légendaire. Ce héros légendaire, mythique, mais que dans l'Antiquité, aussi bien les Grecs que les Romains considéraient comme une vraie personne.
Oui, je pense que les Grecs considéraient que la guerre de Troie avait eu lieu. Et que
mais elle a eu lieu.
Donc, on est d'accord avec les Grecs et les Romains. Et donc, ces personnages avaient existé, c'était leurs ancêtres.
Voilà, c'était le modèle. J'ai parlé dans une émission précédente d'une bande dessinée qui a reçu le prix de la BD Antiquisante et qui, justement, raconte l'histoire d'un petit pêcheur grec de l'Antiquité qui est dans l'admiration d'Achille et qui veut absolument parcourir la même, j'allais dire, odyssée en changeant de sujet, en évoquant cette fois-ci Ulysse. Alors, ce projet qui est maintenant installé au Musée de la Romanité pour quelques mois, jusqu'au mois de janvier, dont Dominique nous a dit que peut-être il y aurait, donc il faut y aller plusieurs fois pour guetter les modifications en cours, que peut-être il rêvait lui aussi de changer certaines choses, d'améliorer, de perfectionner. Donc, nous aurons l'occasion de le voir. Comment ce projet donc est né et pourquoi Achille ?
Alors, comment il est né? C'est tout simplement c'est la procédure habituelle. Le musée a imaginé une exposition sur Achille, je pense motivée principalement par le fait qu'il y a cette magnifique, énorme mosaïque d'Achille Ascyros qui était un objet à exposer. Et ensuite, il y a eu un appel d'offres auquel on a répondu. On est allé chercher des amis scénographes pour nous épauler. Voilà, alors moi c'est un sujet que je connais très bien, qui me passionne, comme vous le savez, donc je dirais qu'on a été très très rapide, parce que le sujet on le connaissait par cœur, on avait déjà plein d'idées, donc ça c'est, la conception s'est fait rapidement, et la grande idée je pense qu'on a eue au niveau scénographique, c'était vraiment une sorte de tentative de transcrire l'espace du mythe, et même plus précisément le dispositif de l'Iliade dans la scénographie. Donc ça, je pense, c'était une belle idée et ça se traduit concrètement par le fait que la mosaïque de Skyros est devenue le pivot un peu de la scénographie entre une partie un peu plus traditionnelle d'exposition d'objets, même s'il y a des projections, et une partie clairement très immersive. Donc là, il y a une bascule qui s'opère et ça correspond à une bascule dans le mythe puisque c'est le moment où Achille décide d'être Achille.
Exactement.
Et la guerre de Troie aura lieu, l'Iliade sera écrite et tout, et on en sera là où on en est. Et puis la deuxième grande idée scénographique, disons, c'était de faire arriver le public par un bateau, de descendre sur la plage et de s'installer sur la plage face au spectacle de la guerre de Troie, un peu comme les Grecs étaient sur la plage.
Et d'attendre que le vent se lève pour partir de l'autre côté.
Par exemple.
Alors, vous disiez que vous connaissiez bien ce sujet. Êtes-vous un familier des textes antiques ?
Je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, l'Iliade, je la lis et la relis depuis l'enfance. Hein. Donc, je la connais par cœur, non, mais je la connais très bien. J'ai eu le bonheur de découvrir régulièrement des nouvelles traductions, ça c'est fabuleux. Et ouais, j'adore la mythologie grecque en particulier, donc je la connais assez bien et j'ai fait pas mal d'expositions ou de films sur le sujet, donc c'est l'occasion de vraiment de plonger, de se rapprocher, d'étudier sérieusement toutes les versions, tous les textes qui existent, de les confronter, et puis de s'emparer du mythe, puisque bien sûr, le mythe c'est quelque chose qui est, comme vous l'avez dit, qui est jamais figé, jamais fixé. Par définition, le mythe c'est quelque chose dont on s'empare et qu'on réécrit à travers les siècles, hein. Donc c'est ce qu'on a fait une fois de plus, on a réécrit le mythe d'Achille à notre façon. Aujourd'hui.
Avec tous les doutes qui entourent Achille, on va reparler peut-être de ce moment pivot avec cette mosaïque et de toute la violence aussi du texte et des aventures d'Achille. C'est extrêmement violent comme texte.
Bien sûr, c'est un texte d'une grande, grande violence. Il y a beaucoup de violence. Et pour moi, c'est une violence qui est, elle est pas tout à fait, c'est une violence qui est d'un autre ordre que celle d'aujourd'hui, je dirais. Enfin, c'est très schématique ce que je vais dire, mais ce qu'on voit dans l'Iliade, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une dignité permanente dans le, entre les personnes, et il y a une égalité, les Grecs et les Troyens. Plutôt, plus précisément, les Achéens et les Troyens sont considérés à égalité, sont traités dans l'Iliade par l'auteur de la même façon, se respectent entre eux, ce sont tous des égaux, il n'y a pas de race inférieure, il n'y a pas d'ennemis malfaisants, il y a juste des hommes qui se battent avec une énorme violence, effectivement, mais avec une dignité. Et l'Iliade, jamais n'est une apologie de la violence ou de la guerre, bien au contraire. C'est un texte qui, d'une audace invraisemblable, qui ne cesse de critiquer ses chefs, de se moquer Agamemnon.
Achille n'aime pas Agamemnon.
Achille n'a aucun respect pour l'ordre établi, et certainement pas pour Agamemnon, qui est traité d'idiot et d'imbécile, oui. et de crétins dans l'Iliade, hein, par oui. Homère, on n'invente rien.
C'est la caricature du petit chef, quoi.
Du grand chef, moi, je dirais, mais c'est tout à fait ça. Et j'espère que c'est une caricature, mais l'histoire ne nous a pas montré que c'était vraiment caricatural, peut-être une habitude. Mais oui, bien sûr, il y a une grande violence, mais il n'y a pas d'apologie de la violence. On ne parle que de souffrance, que de douleur.
Il y a beaucoup de sentiments.
Il y a énormément de sentiments.
Il y a un sens de l'honneur incroyable.
Il y a ce fameux sens de l'honneur, bien sûr, qui prime, ce sens que eux ils appellent ça le kleos, la gloire, le rêve d'Achille, l'objectif d'Achille, c'est d'avoir un nom immortel, et ça passe par bien sûr le combat et la violence. Il y a aussi quelque chose de magnifique dans l'Iliade, c'est son côté funèbre, c'est-à-dire que toutes les innombrables victimes de ces interminables combats, toutes sont citées, toutes ont un nom, toute une famille, toutes ont eu une action, une femme qui les attend, des rêves qui ne se feront jamais. Et chaque fois, c'est dit en une interminable mélopée. Ça, c'est absolument sublime.
Hein. Oui. Et au-delà de la fureur, hein, la fureur d'Achille qui ne se maîtrise pas lorsque on a tué son ami, lorsqu'on lui a pris sa captive et amante, il y a une fureur extrême et en même temps il y a une humanité incroyable, hein, puisque on pense lorsque le vieux Priam vient réclamer le corps de son fils qu'Achille a tué en représailles, eh bien il y a une humanité énorme.
Oui, et dans tous ces cas, il y a toujours une liberté totale et une indépendance complète des règles de la société. C'est-à-dire que la fureur d'Achille, elle est totalement excessive, elle est totalement déraisonnable. Elle dépasse même les dieux qui commencent à paniquer, parce que si on ne l'arrête pas, il va prendre la ville de Troie immédiatement. Et les dieux sont obligés de se mettre en branle pour tout faire, pour freiner Achille. De la même façon, quand Achille reçoit Priam et ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils pleurent ensemble et il lui rend son fils, c'est aussi un geste hors norme, parce que les Grecs n'auraient jamais accepté ça, n'auraient jamais voulu ça. Priam, c'est l'ennemi, c'est le roi le plus puissant ennemi. Donc Achille, en toute indépendance, est un héros complètement furieux ou compassionnel, avec une générosité dans le geste qui est hors norme.
Alors ce bouillant Achille, là on est plutôt du côté d'Offenbach qui l'a plutôt montré de manière rigolote, hein, parce qu'il y a toutes les versions d'Achille. Donc est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Donc vous aviez ce projet, vous avez tout de suite vu comment vous alliez traiter ce mythe. Et qu'est-ce que vous avez rencontré donc comme obstacle? Comment avez-vous travaillé?
Alors moi j'ai pas tout de suite vu ce que j'allais faire, De toute façon, je travaille rarement comme ça, je me lance. Je commence et à la fois, je pourrais argumenter, dire que techniquement, de toute façon, on n'avait pas le temps. Donc, je n'ai fait que tracer vers l'avance.
Et ça commence par de l'écriture ou comment?
Oui.
Ça...
Oui. Oui, alors, bien sûr, il y a eu un premier stade d'écriture énorme, 2 mois, je pense facilement, de travail, à trouver une façon de réécrire, synthétiser, aller à l'essentiel du texte de l'Iliade, de toutes les différentes sources anciennes, puisque l'Iliade, c'est qu'un moment de l'histoire d'Achille, très bref en vérité,
la
c'est une cinquantaine
d'Achille,
de jours,
oui.
La colère. Il n'y a ni sa jeunesse, ni sa mort. Donc il y a beaucoup d'autres textes. L'Iliade, évidemment, de loin, le plus beau, le plus magnifique. Donc oui, il y a eu un travail de réécriture considérable qui est en plus spécifique, puisque moi, j'écris mon texte à l'image. Donc non seulement je dois trouver une façon de synthétiser, de réécrire les différentes Iliades, que, toutes les traductions que j'ai pu accumuler, une sorte de synthèse, mais ce n'est pas seulement une synthèse, c'est une réécriture. Et puis, il y a une forme d'adaptation spécifique à ce texte qui va s'écrire dans l'image. Donc, il y a des contraintes. Il y a aussi des contraintes graphiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'arrive aussi en faisant le film, de changer le texte uniquement pour des raisons plastiques, parce qu'il prend trop de place ou je voudrais qu'il prenne plus de place, etc. etc.
Oui, parce qu'il y a du texte hein, dans votre travail.
Alors c'est très paradoxal, il y a beaucoup de texte et jamais de voix. Et ce texte, je voudrais que ce soit une voix. Et là, quand justement j'ai lu toutes sortes d'études sur l'Iliade, j'ai compris, ou je crois avoir compris, ou j'ai rêvé que l'Iliade et l'invention de l'écriture grecque, c'était vraiment ça l'idée, c'était transcrire la voix sur la pierre.
Ouais.
Les Grecs ont rajouté les voyelles à l'alphabet phénicien, c'est ça l'invention de l'alphabet grec. Et les voyelles, c'est vraiment la transcription de la voix dans l'écrit. Donc moi, sans faire de comparaison stupide, mais d'une certaine façon, j'ai travaillé, en tout cas en étant porté par cette inspiration de la voix qui se transcrit, non pas dans la pierre, mais sur l'image numérique.
Bon, bah alors, l'émission touche à sa fin. On aurait eu encore beaucoup de choses à vous demander, mais je dirais que pour comprendre tout cela, c'est simple. Il faut se précipiter au Musée de la Romanité. Il faut en prendre plein les oreilles, plein les yeux, à mi-chemin entre les objets du musée, cette fameuse mosaïque qui a été le prétexte à cette exposition, et le travail scénographique incroyable qui est fait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.